Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 30e épisode, je reçois le docteur Bernard Gébérovitch, psychiatre spécialisé en thérapie familiale et auteur de nombreux livres sur le couple et la famille. Il a notamment coécrit avec Colette Barouche-Abanol le livre « Le Baby Clash, le couple à l'épreuve de l'enfant ». Dans cet épisode, on décrypte le baby clash, cette période de tension entre les parents, dans les semaines ou mois qui suivent la naissance d'un bébé, pour savoir où il prend racine et si c'est un passage obligé pour les couples qui accueillent un enfant. Le docteur Gébérovitch nous détaille comment il se manifeste et comment le minimiser en anticipant. Il nous parle des différences dans le couple entre le parent qui porte et le second parent, et nous indique à quel point la communication est importante. Enfin, il nous donne des clés pour se garder des moments d'intimité dans le couple, sans avoir forcément besoin de sortir de chez soi. Avant de vous laisser écouter, je tiens à remercier Anne et Tiffen, deux auditrices, qui m'avaient soumis leurs questionnements sur ce sujet. Si vous aussi vous souhaitez proposer un thème, un intervenant ou me soumettre des questions, vous pouvez m'écrire à parentsinformés@gmail.com, parentsinformés au pluriel. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour docteur Gébérovitch.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Je vous remercie de votre invitation.
Avec vous, on va parler du baby clash, qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes, s'il vous plaît, et quel est votre métier?
Alors moi, je suis psychiatre. Mais par ailleurs, j'ai fait une formation et j'ai une pratique de thérapie de couple et de famille. Et donc, c'est avec cette expérience-là qu'il y a un peu plus de 15 ans, avec Colette Barou, nous avons écrit un livre qui s'appelait « Le baby clash » sur cette période difficile que traverse le couple, difficile et très agréable évidemment, mais que traverse le couple, notamment à l'arrivée du premier enfant.
Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'on appelle un baby clash ? Concrètement.
Alors, ce qu'on appelle un baby clash, c'est cette période de turbulence qui, c'est une crise, hein, donc une période de turbulence qui sépare deux états d'équilibre. L'état d'équilibre qui était celui du couple avant la grossesse et l'arrivée de l'enfant, et l'état d'équilibre, un autre, qui n'est pas le même, qui sera le plus souvent trouvé après quelques semaines, quelques mois, et dans une période qui comprend la grossesse et les 3-4 premiers mois qui suivent l'arrivée de l'enfant, il y a des remaniements personnelle, relationnelle, et entre le couple et les familles, et entre le couple et le reste du monde, qui crée des turbulences. C'est ce qu'on a appelé le baby clash.
Est-ce que tous les couples qui ont des enfants passent par ce baby clash ?
Je crois que tous les couples qui ont des enfants passent par ce baby clash. Il est plus ou moins intense, il peut durer plus ou moins longtemps, et ses répercussions peuvent être très très variables. C'est-à-dire que le baby clash, c'est pas la séparation ou l'explosion du couple au moment de l'arrivée de l'enfant, mais ce sont vraiment cette période de turbulence, de remaniement, et le plus souvent, un nouvel équilibre s'instaure, qui va permettre à la famille à trois de poursuivre. Mais je crois qu'à peu près tous les couples traversent cette période de turbulence très importante.
Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il prend racine ? Est-ce que ça commence pendant la grossesse ? Ou c'est vraiment une fois que l'enfant est là et qu'on se rend compte que finalement notre vie, elle change, on ne peut pas garder la même vie que ce qu'on avait avant ?
Nous, on a voulu écrire ce livre justement pour pouvoir prévenir les couples qu'il y allait y avoir un certain nombre de remaniements, de modifications, et que à partir du moment où on est prévenu de certaines difficultés, ces difficultés s'atténuent un peu puisqu'on peut les anticiper. C'est difficile de vous dire à quel moment ils commencent parce que chaque histoire est tout à fait singulière et les couples sont différents. Mais en gros, oui, ils commencent au moment où on prend conscience qu'on va devenir parent. La grossesse est une période de maturation qui va permettre de se préparer et de mettre le couple à l'épreuve de la communication et permettre au couple de se renforcer, ce qui serait une bonne chose en tout cas pendant la grossesse, de sorte à ce qu'après l'arrivée de l'enfant, il ne soit pas trop surpris de ce qui va leur tomber dessus. je le dis avec humour. Encore une fois, dans ce travail, on a cherché, et quand je reçois des couples, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'on va parler de ce qui est difficile, parce que ce qui est merveilleux, agréable, magique, c'est tout à fait particulier, tout à fait singulier, mais il faut quand même évidemment souligner que ça existe. Lorsqu'on rencontre son premier enfant, il y a quelque chose de très particulier qui se met en place, et même si les psys ont l'habitude d'insister sur ce qui est difficile.
Oui, et puis finalement, si on vient vous voir, c'est parce qu'on a des difficultés.
Si on ne parle que des difficultés, on met un peu en péril l'équilibre et la qualité de la relation. Si on parle aussi de ce qui est le socle de la solidité du couple, parler des difficultés, ça va permettre de le renforcer et non pas de s'éloigner l'un de l'autre, s'il le souhaite, évidemment.
Est-ce qu'il y a des fonctionnements de couples qui sont plus soumis à ce baby clash ? J'entends par là, est-ce qu'un couple qui fonctionnait très bien avant va avoir tendance à moins subir le baby clash ? Ou est-ce qu'au contraire, vu qu'il fonctionnait très bien avant et qu'on rajoute un être en plus, ils sont totalement déséquilibrés ? Est-ce qu'on recense des typologies de fonctionnement de couples qui sont plus ou moins soumis à ce baby clash ?
On peut recenser des typologies, même si moi j'aime bien travailler avec les individus et leurs singularités, mais il y a des typologies. Par exemple, c'est beaucoup moins à la mode aujourd'hui, mais les couples très fusionnels, c'est-à-dire pour lesquels on dit que 1 plus 1 égale 1, ces couples-là ont du mal au moment de l'arrivée d'un tiers à intégrer le tiers, et souvent l'un des deux membres du couple se sent mise à l'écart. Évidemment, c'est le plus souvent le père qui se sent mis à l'écart, puisqu'il y a une nouvelle relation fusionnelle entre la maman et le bébé. Et lui, il peut avoir l'impression que le bébé lui a pris sa place, pour être un peu rapide. Sinon, c'est vraiment les couples qui ont aussi des projets très différents. Sont des couples qui sont un tout petit peu mis à l'épreuve. Je veux dire par là que évidemment, ce sont des choses dont on ne parle pas quand on se rencontre. Mais dans la mesure où aujourd'hui, on se rencontre et le premier enfant arrive autour de l'âge de 30 ans, c'est-à-dire chacun a déjà commencé à construire sa vie personnelle, sa vie professionnelle, quand quelqu'un rencontre un autre en disant ben, « on va faire une famille », alors que l'autre dit ben, « on va faire un couple » et puis pour la famille, on verra plus tard, il y a parfois des déséquilibres plus instables qui s'installent et qui peuvent durer un peu. Mais c'est vraiment la qualité de la communication qui est mise à l'épreuve, et plus mieux les couples communiquent, c'est-à-dire savent s'écouter, mieux ils sont à même à deux à faire face à tous ces bouleversements qui vont arriver.
Ok. On sait qu'il y a forcément une différence de vécu entre la mère qui porte l'enfant et le deuxième parent, que ce soit une femme ou un homme finalement, qui lui ne ou elle ne porte pas l'enfant. Est-ce que cette différence de vécu, elle crée une différence d'anticipation et de perception quand l'enfant arrive? Et ça crée ce déséquilibre-là? Est-ce qu'il y a aussi un déséquilibre de ressenti en fonction de si on a porté ou pas l'enfant?
Il y a une différence de ressenti. Ce n'est pas nécessairement un déséquilibre. Il y a une différence de ressenti pour des tas de raisons et qui ne sont pas seulement des raisons immédiates. Il y a le ressenti, l'anticipation et la façon dont on va se sentir mère ou la façon dont on va se sentir, c'est quand même le plus souvent père. La question de l'autre parent dans les couples de même sexe est plus compliquée, puisque là, il y a la PMA, il y a tout ça qui modifie beaucoup l'anticipation de l'arrivée de l'enfant, et ça reste aujourd'hui encore un cas particulier. Mais si on fait le cas général de deux parents de sexe différent, il y a aussi le poids de leur modèle familial, le poids de ce qui leur a été transmis depuis quelques générations. Donc, tout ça fait qu'il y a une différence, oui. La mère se sent mère parce qu'elle porte l'enfant, et il y a des ressentis sensoriels, physiques, hormonaux et encore une fois culturels qui font qu'elle se sent mère, et avec cette responsabilité vis-à-vis de l'enfant qu'elle porte. Pour à quel moment le père se sent-il père au sens parentalité du terme, c'est très variable selon les individus. Moi, j'ai rencontré des gens qui s'étaient sentis père dès le test de grossesse, et d'autres qui n'ont compris qu'ils étaient pères que quand l'enfant avait 2 ans et commençait à bien marcher, ou même, j'ai vu plusieurs fois des gens qui m'ont dit « j'ai compris que j'étais père quand il a commencé à lire, parce que j'ai pu lui transmettre de la culture ». Donc c'est très différent selon les individus. Mais ça ne crée pas un déséquilibre, encore une fois, à partir du moment où on arrive à échanger et à essayer de comprendre comment l'autre vit la situation. Donc ça ne crée pas nécessairement un déséquilibre. Le déséquilibre, il est lié aux malentendus, aux incompréhensions, ou à l'idée que tu devrais penser de la même façon que moi. Ça, c'est un problème.
D'accord. Vous avez dit, on a moins de recul sur les couples homoparentaux. Est-ce que on sait s'ils vivent quand même des baby clash, ou finalement ils sont moins touchés par ce phénomène-là?
Je pense qu'ils sont un petit peu moins touchés, sauf quand ils le sont vraiment beaucoup. Ils sont un peu moins touchés parce que l'attente de l'enfant est beaucoup plus longue, tout comme dans les couples hétérosexuels qui ont recours au PMA, ou dans les situations d'adoption. Qui sont aussi des situations où il y a une attente de l'arrivée de l'enfant qui peut durer des mois, des années, etc. Donc il y a une sorte de... Et le projet est vraiment un projet commun qu'il faut porter et qui est prioritaire. Donc il y a vraiment une attente très forte.
Oui, finalement, les deux parents sont impliqués beaucoup plus fortement dans ces parcours-là.
Oui, absolument. Et ce qui sans doute les protège un petit peu du baby clash, sauf s'ils ont une idéalisation telle de la situation qu'à un moment, ils sont un peu surpris et déçus de ce qui peut se passer. Et en plus, ils ont un âge plus grand, c'est-à-dire ils sont plus âgés. En tout cas, l'arrivée de l'enfant dans les couples homosexuels ou dans les situations d'adoption se fait plutôt 35, 36 ans. Donc, il y a une sorte de maturité aussi qui est différente.
Ok. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, c'est-à-dire que des jeunes couples, en termes d'âge des parents, sont plus soumis au baby clash que des couples d'âge plus mature?
Il y a deux choses. Quand on est plus jeune, dans la génération de mes parents, de mes grands-parents, l'arrivée de l'enfant était quelque chose qui était à la fois valorisée et puis qui se faisait dans une sorte d'insouciance et qui entraînait parfois des baby clash. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le projet d'enfant est très, très, très valorisé. Et en même temps, quand les gens ont la trentaine, ils se donnent des objectifs assez compliqués à mettre en place, qui est « je veux être épanoui dans ma vie professionnelle, je veux être épanoui dans ma vie personnelle et je veux être épanoui dans ma vie de parent », et avec parfois une sorte d'objectif de perfection, d'avoir tout bon partout, qui crée évidemment des déceptions qui peuvent être un peu violentes. Et j'ai l'habitude de dire une formule qui est un tout petit peu schématique, qui est « si je ne me sens pas bien, ça n'est pas de ma faute, c'est pas non plus de la faute du bébé, donc ça doit être de ta faute à toi ». Et ça entraîne parfois des difficultés conjugales.
Est-ce que le fait que le congé paternité du second parent soit relativement court, voire même très court en France, ça joue dans la construction de la famille et dans ces baby clash?
Ça joue, même si je vous rappelle quand même qu'il va être allongé dans peu de temps. Ça joue, c'est-à-dire que ça impose quelque chose, encore une fois, qui va être une différence. Quand le couple a l'occasion de discuter du projet, qui va faire quoi, qui va reprendre rapidement son travail, qui va rester un peu plus longuement avec l'enfant, la répartition des tâches, comme on dit, de sorte que la charge mentale ne soit pas seulement sur la maman, quand ils ont l'occasion d'en parler tous les deux et de se mettre d'accord, la durée du congé paternité n'est pas très, très importante, mais elle va créer des insatisfactions, évidemment. C'est-à-dire qu'assez souvent, le père, quand il est au travail, va avoir l'impression qu'il rate quelque chose de ce qui se passe avec le bébé. Et quand la maman reste avec le bébé plusieurs semaines, elle a l'impression qu'elle est prisonnière de cette situation et qu'elle n'a pas le temps de mettre le nez dehors. Le confinement, là, ça sera intéressant de voir quelles sont les conséquences du confinement sur cette dimension, parce que il y a un avantage dans le confinement, c'est que les pères ont sans doute plus l'occasion de partager la toute petite enfance de leur bébé, ce qui n'était pas le cas. Mais on espère que le confinement sera une situation particulière.
Oui.
Mais évidemment, je pense que faire un enfant et la façon dont on va s'en occuper, la façon dont s'organiser, ça doit être un projet commun. C'est pas un projet qui s'impose à nous ou un projet de l'un qui s'impose à l'autre. Et à partir du moment où on admet que c'est un projet commun, évidemment, les insatisfactions sont mieux supportées.
Est-ce que le bébé, il ressent tout ça? Parfois, on a tendance à se dire « je ne veux pas que mon bébé le sente, que ça ne se passe pas bien, je veux pas... » On peut avoir aussi une culpabilité en tant que parent de se dire ben, « si moi, ça ne va pas, et si mon couple, ça ne va pas, mon bébé, forcément, ça ne va pas aller parce qu'il va le sentir. » Est-ce qu'ils ressentent tout ça, vraiment? Ou est-ce que finalement, ils sont assez protégés?
Très honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'ai plutôt envie de croire, c'est une question de croyance, hein, que le bébé ressent un certain nombre de... Il ressent les variations de rythme, il ressent les variations des tons de voix, il ressent les variations d'ambiance, sans doute. Comment est-ce que ça s'inscrit? Comment est-ce que ça s'engramme chez lui? Est-ce que c'est durable? C'est difficile de le savoir. Moi, je suis assez sensible... Je dis ça pour vos auditeurs, auditrices, que ça intéresserait aux théories de l'attachement. Je trouve qu'elles sont très intéressantes. C'est-à-dire que le bébé, il a besoin de sécurité affective, de stabilité. Donc, globalement, de se sentir entouré par une situation stable. Maintenant, il ne faut pas être perfectionniste. Et on sait bien que des moments de tension, des moments de fatigue, des moments d'énervement, le bébé, il est dans la réalité. La réalité, elle est aussi que dans les relations, il y a des moments de tension, des moments de fatigue. C'est sans doute une question de récurrence. Et il vaut mieux que ce ne soit pas trop fréquent, ni trop fort en termes de décibels et d'intensité, évidemment. Et il ressent, je pense que le bébé ressent beaucoup l'anxiété de l'un ou de l'autre des parents, et dans la grossesse, pendant la grossesse, évidemment. Donc ça, il le ressent et ça le marque plus ou moins. C'est très difficile. On ne peut pas faire de relation de cause à effet entre ce qui se passe au cours des 4 premiers mois, si les choses reviennent petit à petit à la normale et ce qui va se passer pour lui 15 ans plus tard. Hein, c'est difficile de... Mais c'est important de se dire qu'il vaut mieux éviter qu'il se sente trop chahuté affectivement, bien sûr.
Mmh. Quels sont, d'après vous, les points importants sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord en tant que couple quand on prépare l'arrivée d'un enfant? Quels sont les points qui vont nous permettre justement de mieux anticiper ce baby clash?
À vrai dire, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il faut se mettre d'accord, encore une fois, sur la façon dont on va pouvoir s'en occuper. Il faut se mettre d'accord sur la capacité qu'on a à demander. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne savaient pas demander à leur conjoint un peu d'aide, un peu de soutien ou de prendre le relais. Elles ont l'impression que ça doit se faire, soit qu'elles doivent tout faire parce qu'elles doivent être des superwoman, soit que lui, il doit comprendre de lui-même, et souvent ça ne marche pas. Donc, c'est important de savoir demander. Il est évidemment important de se mettre d'accord sur les relations qu'on va pouvoir avoir avec le monde du travail, on en a parlé. Avec les familles de chacun, c'est évidemment très important, quelle place elles vont prendre, comment on va protéger l'intimité du couple et comment on va inscrire le bébé dans son arbre généalogique. Ça se fait petit à petit, mais c'est important parce que c'est source de tension à l'intérieur d'un couple assez souvent. Il y a deux points dont il faut parler parce qu'ils me paraissent très importants. C'est la fatigue d'une part, parce que la fatigue que chacun peut ressentir, soit en fin de grossesse, soit surtout dans les premières semaines, liée au fait qu'un bébé, ça fait passer une nuit complète, la fatigue diminue beaucoup les seuils de tolérance, ou les augmente, je ne sais plus, en tout cas les modifie, ce qui fait qu'on est plus irritable, plus tendu, plus irritable et moins indulgent avec l'autre. Donc il faut vraiment prendre soin de ça. Et il faut aussi pouvoir se comprendre autour des choses qui sont liées à la sexualité, parce que c'est souvent un point de tension qui arrive petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut savoir que après l'arrivée d'un enfant, il ne faut pas essayer de retrouver l'équilibre qu'on avait avant, parce que l'arrivée d'un enfant, ça traduit un changement irréversible.
D'accord.
Et que l'individu va changer, la relation du couple va changer, la sexualité aussi va se modifier. Et je crois qu'il faut savoir se parler pour faire attention à ça.
Parfois, on sait que ça peut être difficile et puis on est pris dans le quotidien et quelque part on en oublie tout ça. À un moment donné, quels sont les signes qui peuvent nous alerter et nous dire « attention, là ça commence à dériver, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on en discute, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qu'on peut avoir pour se dire « là dans ma situation, je... » Parce que des fois, quand on est dans le quotidien, c'est pas si simple, on se rend pas compte de tout ça. Et surtout quand, effectivement, on a la fatigue, on a notre bébé, on a 10 milliards de choses à penser, et finalement, on n'arrive plus à se recentrer sur le couple.
Oui, mais vous avez raison, c'est pour ça que c'est nécessaire d'anticiper, c'est-à-dire que le quotidien, la routine, c'est pas nécessairement quelque chose de terne, de gris. Donc, on est pris dans le quotidien que si on se laisse prendre, c'est-à-dire c'est vraiment à chacun d'essayer d'organiser des petits moments de légèreté, des petits moments d'intimité à deux. Et je crois qu'il faut être vraiment très, très vigilant, non pas attendre de partir 8 jours aux Seychelles parce qu'on ne le fait pas, mais de temps en temps de faire l'effort de se dire « tiens, ce soir, on éteint les écrans parce qu'ils ont une place importante dans ce que vous appelez le quotidien et dans ce qui éloigne les deux conjoints. Donc ce soir, on éteint les écrans, on se fait un dîner à deux, on essaye de parler d'autre chose que du bébé et on garde quelque chose de l'ordre du désir au sens large du terme, du désir d'être à deux, du désir du contentement de passer un moment à deux. De temps en temps, évidemment, on ne fait pas ça tous les soirs et on ne fait pas ça, encore une fois, tout le temps, mais c'est important de se pointer et de bien montrer à l'autre qu'on a toujours envie d'être avec lui ou avec elle. C'est très important. Donc, votre question, c'est pas j'ai envie d'y répondre non pas à quel signe on va voir que ça va pas, parce que ça, on voit que ça va pas quand on s'énerve pour n'importe quoi, quand on commence à se reprocher des petits trucs de façon récurrente, à pas supporter les petites manies de l'autre, à monter le temps rapidement et à être fatigué. Ça sont des signes qui d'ailleurs sont des signes de un peu troublants et auxquels il faut être vigilant, bébé ou pas bébé.
Oui.
Mais je pense que c'est plus encore une fois en anticipant et en vraiment prenant soin de se garder des moments d'intimité à deux. Et là, je parle pas d'intimité sexuelle, je parle d'intimité des moments où on est juste tous les deux et on essaye de garder cette intensité-là de temps en temps.
Oui, et c'est pas forcément de sortir de la maison ou de prendre un week-end. Ça peut être un repas à table, ensemble, à la maison, avec quelque chose qu'on a commandé, par exemple, au restaurant ou ce genre de choses.
Absolument. Parce que c'est très bien si on peut sortir, mais pour sortir, il faut s'organiser, faire garder le bébé. Il faut en plus être prêt à laisser son bébé. Et moi, j'ai rencontré, et vous aussi, hein, suffisamment de couples qui sont au restaurant avec leur téléphone sur le portable sur la table et téléphoner 4 fois à la babysitter pour savoir que... Mais bon, c'est pas mal de le faire, mais vous avez raison, c'est... On commence à le faire à la maison. Et puis, quand on peut aller au resto, le jour où ça réouvrira, on ira volontiers. Mais c'est des petits moments de légèreté, d'intimité à deux qui sont vraiment importants à maintenir.
Ok. Quand on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, que malgré le fait qu'on essaye, on n'y arrive pas, à qui on peut demander de l'aide ? Si on a envie de sauver son couple, parce qu'on peut aussi ne pas avoir envie de le sauver à un moment donné, mais si on a envie de sauver son couple, à qui on peut s'adresser ?
On peut s'adresser à plein de gens de confiance. Ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, ça peut être quelqu'un de la PMI, ça peut être le médecin généraliste, et ça peut être évidemment un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple. Bien sûr, il y a donc pas mal de gens qui peuvent aider, mais je pense, moi je vois souvent hein, des couples qui m'appellent, et puis comme en ce moment je ne peux pas donner des rendez-vous rapides, ils me disent, mais déjà le fait de vous appeler, ça nous a obligés à discuter, et on a déjà commencé à résoudre une partie des problèmes avant même la première consultation. C'est-à-dire que la prise de conscience de « attention, ça ne va pas, il faut qu'on aille en parler à quelqu'un », si cette prise de conscience se fait en commun, ça permet déjà de tirer les signaux d'alarme dont vous parliez tout à l'heure.
D'accord. Mais c'est très intéressant tout ça. Je pense que le plus important de ce que je retiens de tout ça, c'est d'anticiper ces discussions de qui va faire quoi, comment et comment on s'organise avant que le bébé soit là. Parce qu'effectivement, une fois que le bébé est là, le quotidien peut être fatigant, surtout les premières semaines.
Il l'est le plus souvent. Et puis, je crois, si je peux mettre un petit dernier mot, qui est important aussi, c'est la façon de se parler. C'est-à-dire que moi, je suis aussi très sensible aux points de communication non violente. C'est-à-dire quand on arrive à parler de soi à son conjoint, c'est quand même beaucoup mieux compris et entendu que quand on parle en termes de reproches de « tu es comme ci, tu es pas comme ça, tu fais trop ci et tu fais pas ça ». Ça, ce sont des discussions qui sont souvent irritantes et qui n'amènent pas de résultats très intéressants. Donc, si on fait l'effort de pouvoir parler de ce qu'on vit à l'autre, l'échange est souvent plus fluide et plus productif.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux lui dire « je me sens fatiguée, j'ai l'impression de tout faire » plutôt que de lui dire « tu fais rien et je me sens seule, quoi ».
C'est ça. Non, je me sens seul, on peut, mais tu fais rien, tu es agressif et tu m'écoutes pas et tu m'entends jamais. Et puis surtout, si on ajoute des jamais et des toujours, ça entraîne une réponse souvent ping-pong qui est « moi non plus, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça ». Et on le fait tous, hein, on n'est pas parfait, mais c'est une forme de discussion autour du reproche qui est souvent très, très irritante, énervante et qui n'amène pas de... qui éloigne plus qu'elle ne rapproche. Et c'est vrai que si on a la capacité de dire « je me sens agressé plutôt que tu es agressif », ça laisse une petite chance à une meilleure écoute, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, qui est, tu fais bien de le dire, parce que je ne pensais pas l'être.
Mmh. Ok, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais à ce sujet. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter ?
Non, ça va, merci de vos questions.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire le livre coécrit par le Dr Gbirovic et Colette Baruch-Abanol, qui s'appelle « Le Baby Clash, le couple à l'épreuve de l'enfant ». Je vous mets le titre dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.